Les 15h10 à Paris, 13h10 en temps universel, le journal d'Haïti et des Amériques est présenté par Michael Ponge.
Merci Mayol, il est 8h10 à Uvalde, au Texas. Uvalde endeuillé, les États-Unis sonnés par une nouvelle fusillade dans une école, 22 morts, dont 19 enfants. La législation peut-elle changer? On en parle avec notre invité du jour, avec lequel on s'intéresse aussi aux résultats des primaires d'hier pour les élections de mi-mandat. Donald Trump serait-il en perte d'influence côté républicain? Tout cela, ce sera avant de vous retrouver, Alex Léveillé, pour le journal de la première. Les usagers de la route en Guyane n'en peuvent plus.
Et ils réclament des travaux immédiats et puis nous y rend aussi au Lamentin en Martinique souffler les 101 bougies de Marie-Louise Hummel, la doyenne de la commune.
Alors rendez-vous dans une quinzaine de minutes, Alex, et bienvenue à tous.
19 elementary school children who were murdered.
19 enfants tués de sang-froid par un adolescent de 18 ans. C'est évidemment partout à la une des matinales d'info. Aux États-Unis, une nouvelle tuerie de masse, cette fois-ci à Uvalde, donc au Texas, qui a également coûté la vie à deux enseignants. Trop, c'est trop, a réagi la vice-présidente Kamala Harris, quand Joe Biden, lui, dans un message solennel, s'est dit écœuré et fatigué face à la litanie des fusillades qui endeuillent son pays.
Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes? Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous faire ce que nous savons qu'il faut faire au fond de nos tripes? Ces tueries de masse ont rarement lieu ailleurs dans le monde. Pourquoi? Il est temps de transformer cette douleur en action.
Mais si tout cela est possible avant, il faut laisser passer le choc. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
Choc partout d'ailleurs, hein, à la une, ce matin de la presse américaine.
Oui. Worst Nightmare, le pire des cauchemars, c'est le titre de une du Houston Chronicle, au-dessus de la photo d'une femme en pleurs, les yeux fermés par l'effroi, la main sur la bouche, alors qu'au premier plan, on aperçoit un membre de la police revêtu d'un gilet pare-balles. Massacre scolaire, résume El Diario, avec en une la photo du tueur présumé Salvador Ramos. Mais les tueries de masse, le Texas en connaît depuis longtemps. Le Texas Tribune se penche sur 13 années de violence dans l'État, alors que, confrontés à ces drames, les républicains du Texas n'ont fait qu'affaiblir les lois sur les armes, souligne le journal. D'ailleurs, dans son éditorial, le Houston Chronicle affirme que lorsque le gouverneur du Texas, Greg Abbott, dit « plus jamais ça » après le massacre de l'école d'Uvalde, les Texans ne doivent pas le croire. Car lorsqu'il qualifie ce qui s'est passé ce mardi d'incompréhensible, c'est de la couardise et un mensonge éhonté, cingle le quotidien. Qu'on parle d'armes de poing, de fusils ou d'armes semi-automatiques inventées pour la guerre, le gouverneur et le Parlement ont adopté les uns après les autres des lois qui anéantissent tout semblant de régulation basée sur le bon sens. Le New York Times rappelle ainsi qu'en 2021, Greg Abbott a signé une loi mettant fin à l'obligation pour les Texans d'obtenir un permis pour porter des armes, permettant virtuellement à n'importe qui ayant atteint les 21 ans d'en porter.
On votait hier au Texas pour désigner les candidats qui s'affronteront lors des élections de mi-mandat en novembre, notamment pour le poste d'attorney général, l'équivalent du ministre de la Justice. C'est le sortant Ken Paxton, soutenu par Donald Trump, qui l'a remporté haut la main. Et voilà ce qu'il a déclaré hier soir quand, sur Fox News, on l'a interrogé sur la manière d'en finir avec ces fusillades.
On ne peut pas empêcher les mauvaises personnes de faire de mauvaises choses. Ces gens ne vont pas respecter les lois sur les armes de toute façon. Je n'ai jamais compris cet argument. Mais ce qu'on peut faire, c'est distribuer des armes et entraîner les enseignants et les personnels à agir vite, parce que la réalité, c'est que nous n'avons pas les moyens de mettre un policier dans chaque école. Donc entraîner ces personnes dans les écoles, c'est selon moi la meilleure solution à ce problème.
Et ainsi, Christophe, le Boston Globe écrit aujourd'hui: pour ce qui est du contrôle des armes, nos enfants sont une génération abandonnée.
Depuis Columbine en 1999, plus de 187 000 enfants ont vécu une tuerie dans leur école. Mais le journal note que ces dernières années, une nouvelle génération d'Américains se sont organisés dans un mouvement qui n'est pas, sans rappeler, celui qui a provoqué des changements énormes sur les droits civiques et l'engagement des États-Unis au Vietnam. Avec pour ce nouveau mouvement des succès, comme le passage au niveau des États de lois sur les armes, mais le Sénat américain bloque, avec des politiciens soutenus par l'argent du lobby des armes, dénonce le Boston Globe.
Et c'est exactement ce qu'a dénoncé aussi hier soir Steve Kerr. Il est l'entraîneur de Golden State, équipe de basket de NBA, juste avant le match de son équipe contre celle de Dallas. Il a refusé de parler sport et a eu ces mots.
When are we gonna do something? Quand est-ce que nous allons faire quelque chose? Je suis fatigué de venir ici, présenter mes condoléances à des familles dévastées. J'en ai tellement marre de dire que je suis désolé. J'en ai marre des minutes de silence. Assez! On est pris en otage par 50 sénateurs à Washington qui refusent ne serait-ce que de mettre au vote ce sujet, en dépit de ce que le peuple veut. Ils ne voteront pas parce qu'ils veulent conserver leur pouvoir. C'est pathétique. J'en ai marre.
Assez, s'exclame l'entraîneur de Golden State, Christophe, il n'est pas le seul.
Hein. Et le Washington Post se fait l'écho de démocrates en colère, comme le sénateur Chris Murphy ou la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui ont attaqué hier le parti républicain sur cette résistance à passer des lois pour contrôler les armes. L'administration Biden pourrait contourner ce blocage grâce à des décrets, estime le Boston Globe, et le président pourrait mettre en place un cabinet pour la prévention des violences liées aux armes, comme nous en avons pour le climat, le travail ou encore la sécurité dans les transports. En attendant, la NRA, le puissant lobby des armes aux États-Unis, prévoit toujours de tenir cette semaine son meeting annuel à Houston, au Texas. Hier soir, relève le Houston Chronicle, lors d'une veillée en mémoire des victimes à Houston, la députée démocrate Sheila Jackson a demandé à la NRA d'annuler l'événement pendant lequel il est, là encore, toujours prévu que le sénateur Ted Cruz, le gouverneur Greg Abbott et l'ex-président Donald Trump prennent la parole.
Donald Trump et ses affidés, merci Christophe, hein, dont on va reparler dans un instant. Avec vous, Laurie Kenton, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste de civilisation américaine, maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, merci d'être avec nous. On va évoquer les primaires qui se tenaient hier dans plusieurs États aux États-Unis, mais avant au sujet de cette tuerie, et donc de l'inévitable sujet, hein, débat sur le port des armes, on le disait, qui revient sur la table. Ce débat ne tourne-t-il pas malheureusement à vide de toute façon ?
Mais complètement, l'intervention de Paxton que vous avez passée là en son, c'est le catéchisme de la NRA, mais pratiquement mot pour mot, c'est-à-dire que d'un côté, les républicains récitent leur catéchisme toujours le même, et de l'autre côté, les démocrates demandent toujours un certain nombre de choses qui sont plus ou moins réalistes et qui se heurtent toujours au même blocage, au Sénat en particulier. Et toujours, malgré son usure à ce lobby des armes qu'on disait en déclin et en faillite.
Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir de voir une loi fédérale ou un quelconque accord bipartisan pour un texte. Ça n'arrivera pas.
Après Sandy Hook en 2012, où c'était à peu près la même chose, une tuerie dans une école, on se disait c'est pas possible que ce soit pas la dernière ligne rouge. Et il s'est rien passé. Donc là, on est à peu près dans la même configuration. La seule chose qui pourrait changer quelque chose, c'est l'accumulation des tueries dans les écoles. On a eu Parkland, le lycée en Floride en 2018. Il y a cette accumulation, mais c'est vrai que comme il s'est rien passé après Sandy Hook en 2012, on peut être assez pessimiste sur l'agenda.
La Cour suprême des États-Unis doit rendre une décision très attendue d'ici la fin du mois de juin sur une loi limitant le port d'armes dans l'État de New York. Si cette loi new-yorkaise est invalidée, alors des législations à peu près comparables pourraient tomber dans plusieurs autres États. Laurie Kenton, à rebours de l'actualité, est-ce qu'on peut imaginer la Cour suprême tout simplement déréguler encore davantage la législation sur les armes ?
Oui, parce que la Cour suprême fait de la politique, mais elle fait de la politique par le droit. C'est-à-dire que c'est toujours possible, et ça arrive tout le temps, que des lois sont mal configurées d'un point de vue constitutionnel. Mais à ce moment-là, des lois, ça se reconfigure, notamment dans les États. Des décrets, ça peut se passer au niveau fédéral. Et ça peut également, vous en parliez tout à l'heure, ça peut aussi être retoqué par un président républicain. Hein, donc c'est quand même plus faible.
Oui. Président républicain Donald Trump, évidemment, on pense à lui au sujet de la Cour suprême, hein, puisqu'il a nommé des juges conservateurs, ce qui change donc la couleur de cette Cour et ses possibles décisions. Donald Trump, alors on le disait, 18 mois après avoir quitté la Maison-Blanche, qui ne semble peut-être plus forcément en mesure de faire et défaire les élections. 4 États votés hier pour des primaires afin de désigner les candidats qui s'affronteront aux midterms du mois de novembre, notamment la Géorgie, voté un État clé. Le poste de gouverneur était en jeu et côté républicain, eh bien celui que soutenait Donald Trump, David Perdue, a largement été battu par le sortant David Kemp, qui sera donc le candidat du GOP en novembre. Est-ce que c'est une humiliation pour l'ancien président ?
Alors, c'est Brian Kemp, mais alors, c'est très symbolique. Effectivement, on s'attendait à ce que Kemp batte Perdue, c'était tous les sondages l'annonçaient. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça a été le cas, mais ça a été le cas bien plus largement que ce que les sondages annonçaient. Bon, David Perdue n'était pas forcément un très bon candidat. Il y a toujours une prime au sortant qui s'est vérifiée à nouveau. Mais c'est vrai que là, on est dans une configuration où Trump était plus ou moins... sur le ticket. Hein. Donc oui, c'est vrai que c'est assez embarrassant parce que Kemp, qui est absolument pas un progressiste, hein, il est ultra conservateur, mais il a tenu tête de manière répétée à Trump sur les résultats de l'élection de 2020. Et son adjoint, Brad Raffensperger, a été lui aussi réélu, alors qu'il était, bah, il était en ballotage, il y avait un Trumpiste loyal contre lui, et même configuration, donc c'est quelque chose de symboliquement important.
Brad Raffensperger, on s'en souvient, donc lui c'était pour la course au poste de secrétaire d'État. Donald Trump lui avait demandé de trouver des voix en 2020 au moment de la présidentielle pour lui permettre de gagner dans l'État de Géorgie. Ça veut dire quoi? Que les accusations de fraude électorale qui ont fait le succès de Donald Trump, qui lui ont permis de gagner des soutiens après l'élection, cette formule-là, eh bien, elle ne marche plus, elle ne fonctionne plus?
En tout cas, elle n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique et c'est intéressant que dans un État comme la Géorgie, on voit des résultats qui sont quand même dénués de toute ambiguïté, alors qu'il y aurait pu y avoir un vent de Trumpisme. C'est l'État de Marjorie Taylor Greene, hein, la représentante connue pour ses frasques ultra-conservatrices. Donc on aurait pu penser ça, mais au niveau de l'État en général et au niveau de l'électorat républicain, parce que c'est une primaire républicaine, ça n'a pas été le cas et dans des marges qui sont quand même très conséquentes.
Cet État, donc, je reviens au poste de gouverneur, il faut suivre, donc Brian Kemp qui remporte l'investiture pour les Républicains, il affrontera en novembre la démocrate Stacey Abrams, c'est la même affiche qu'en 2018, Kemp avait gagné de quelques voix en 2018, est-ce que l'évolution démographique de la Géorgie pourrait permettre cette fois-ci une victoire démocrate en novembre?
A priori, oui, parce que c'est ce qu'on a vu pour les deux sénatoriales de début janvier 2021. L'écart s'était déjà beaucoup resserré entre 2016 et Hillary Clinton et 2018 Stacey Abrams. On a vu qu'avec Biden et les deux élections sénatoriales de janvier 2021, ça s'était tellement resserré que ça s'était même inversé. Donc logiquement, on pourrait être dans une configuration où les démocrates peuvent l'emporter très légèrement, mais ils sont désormais en mesure de l'emporter.
Est-ce qu'ils peuvent l'emporter aussi pour le Sénat, puisque en Géorgie, il y a un poste de sénateur qui sera en jeu, là aussi primaire hier, côté républicain, j'ai mangé son nom, mais son prénom, mais son nom, c'est Walker, Herschel Walker, voilà, qui donc remporte l'investiture républicaine. Lui aussi était soutenu par Trump. Il affrontera le sortant, le révérend Warnock. Pareil là, qu'est-ce qu'il peut advenir au mois de novembre?
La question de la mobilisation sera cruciale. Elle l'est toujours. Dans une midterm, le problème, c'est que c'est souvent l'opposition qui est la plus mobilisée parce qu'il y a un esprit de revanche sur le parti au pouvoir. Donc ça, c'est pas bon pour les démocrates, c'est plutôt bon pour les républicains, quelle que soit la démographie. Parce que vous pouvez avoir toute la démographie que vous voulez, si les gens vont pas voter et si les républicains vont plus voter que les démocrates, eh ben, la démographie changera pas grand-chose. Donc là, la question, c'est de savoir à quel degré d'enthousiasme les républicains voteront pour leur candidat, à quel point les indépendants, qui sont susceptibles de voter pour les deux, hein, vont plutôt pencher pour l'un ou pour l'autre. Ils n'ont pas eu énormément de temps, les démocrates, pour apprécier le travail du sortant, puisque c'est sur un poste, c'était une élection intermédiaire, donc il n'a que 2 ans d'ancienneté, et pas 6 ans. Ouais. Là, c'est vraiment très ouvert. La campagne, le ton de la campagne jouera beaucoup. Ça dépend, par exemple, si le républicain est un peu outrancier, par exemple, ça peut décourager les indépendants qui peuvent aller vers le plus raisonnable.
Et ça pose la question, évidemment, donc, du positionnement aussi du Parti républicain, avec ou sans Trump, mais sur la question de la ligne ultra-conservatrice, voire réactionnaire, malheureusement. On n'a plus le temps d'en parler. Merci en tout cas beaucoup, Laurie Kenton, pour votre intervention spécialiste de civilisation américaine. À Washington, il est 9h24.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Une heure de moins à Mexico, alors que les États-Unis pourraient te reculer sur la question. Le Mexique avance. Christophe Pagé, la Cour suprême mexicaine, pourrait permettre aux mineurs d'avorter sans autorisation parentale pour les jeunes de 12 à 17 ans en cas de viol.
Oui, pouvoir choisir, hein, c'est ce qui est écrit sur le ventre d'une femme enceinte, sur la photo choisie par Eluni Balsal pour illustrer son article. Le président de la Cour suprême a estimé hier que demander des autorisations est une manière de victimiser à nouveau les personnes et que l'État doit garantir un processus sûr pour l'interruption de grossesse, rapporte Excelsior. Ce sont les États de Baja California et Aguascalientes, dans le Nord, qui avaient déposé des recours contre la décision prise par le gouvernement mexicain en 2009 et révisée en 2016. Ils estimaient que cette décision empiétait sur les attributions de leur parlement respectif, rapporte Jordana, recours rejeté donc.
Un petit mot rapide du Brésil, Christophe. Endeuillé, bilan d'une sanglante opération de police dans une favela de Rio, 21 morts.
Oui, la méga opération menée à Vila Crucero est la deuxième plus meurtrière de l'histoire de Rio, souligne Odia. Selon la police militaire, rapporte Folha de Sao Paulo, il s'agissait d'arrêter en flagrant délit plus de 50 trafiquants de drogue de différents états qui partaient en convoi vers la favela de Rocina, dans la zone sud de la ville. Le plan a toutefois été déjoué lorsqu'une des équipes d'infiltration a été découverte et attaquée. Le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, a quand même salué l'opération, rapporte Odia, qui précise que les décès survenus feront l'objet d'une procédure d'enquête pénale. On le rappelle, 21 morts.
Christophe Pagé, merci.
Le journal de l'Outre-mer.
Alex Léveillé, bonjour.
Bonjour Mickaël.
Et à la une, le ras-le-bol des usagers de la route en Guyane face au mauvais état des infrastructures.
Ah oui, ils réclament des travaux immédiats. D'ailleurs, les accidents sont plus nombreux. 5 morts de plus par rapport à l'an dernier. Et forcément, pointer du doigt le mauvais état des routes. Mais quid de la prévention routière? Océlia Cartès de Guyane la première.
Excès de vitesse, conduite sous l'empire d'alcool ou d'emprise de stupéfiants. A contrario de l'année dernière, ce sont les causes des accidents constatés. Les véhicules légers sont les moyens de transport les plus concernés par les accidents.
On constate bien que c'est souvent le comportement de l'usager qui est en cause.
Ghislaine Dondon, responsable de la cellule sécurité routière de la préfecture de Guyane.
L'état de son véhicule aussi, qui n'est pas du tout adapté à effectuer un trajet en toute sécurité.
16 personnes ont déjà perdu la vie sur nos routes. Elles étaient 11 l'année dernière à la même période. Les facteurs d'accident sont donc multiples, mais peuvent-ils être évités? Les campagnes de prévention sont de plus en plus discrètes, voire ciblées. Ghislaine Dondon.
Nous avons de nombreux porteurs de projets qui nous sollicitent chaque année pour que nous puissions financer leur action ou les accompagner dans le montage et la réalisation de leurs actions. Mais nous travaillons actuellement à la réalisation d'une campagne de sécurité routière qui sera menée au niveau local et les messages seront diffusés dans les principales langues parlées en Guyane.
La cellule sécurité routière semble ne pas être en sommeil. Elle multiplierait les actions auprès des scolaires et des citoyens à travers notamment des actions de plein air. Aussi, chaque année, le plan départemental d'action évolue en fonction des usagers les plus impactés par les accidents mortels. En 2021, la cible était les deux roues.
Océlia Cartès de Guyane, la première. Son regard est toujours pétillant. Marie-Louise Hummel a soufflé ses 101 bougies hier. Ancienne danseuse de ballet folklorique, la doyenne de la ville du Lamantin en Martinique garde une mémoire intacte. Marie-Louise Hummel.
Je serais restée tranquillement toute seule. Tandis qu'elles sont tous là. Ils sont tous là.
Ça vous fait quel âge?
101 ans. J'avais une boîte qui avait tout ce que j'avais fait dans ma jeunesse. Mais il ne me reste rien du tout. Comme ça, je n'ai plus de souvenirs. Je ne veux pas dire à quelqu'un, et s'il vous plaît, on s'en est dit, ah, mais tu voyageais, tu faisais ci, ou tu es passé. Je montrais, parce que j'avais une machine qu'on pouvait lire, qu'on pouvait voir. Marquer, tamper, tout et tout. Je montrais, c'était facile. Et bien maintenant, quand je dis ça, on me dit, je mens.
Marie-Louise Hummel, 101 ans, la doyenne de la commune du Lamantin en Martinique, était au micro d'Edilia Eugène Mormin de Martinique la Première. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci, bonne journée à vous aussi, Alex Léveillé, à vos équipes de la Première. Merci à Claude Baptiste qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques mené au pas de course aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Très bonne journée à tous. Du 18